7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Lénaïque Monnier pour le journal.
Que peut l'Europe face à l'imprévisible Donald Trump? La rupture est consommée entre les présidents américains et européens. À Strasbourg, les agriculteurs européens en colère contre le Mercosur, ils mettent les eurodéputés au pied du mur. Et puis les premiers effets en France de l'IA sur l'emploi, le géant Capgemini limoge à tour de bras.
Après le journal Le Choix Cinéma de Samuel Blumenfeld, qui a aimé le match du Kremlin, suivi de l'éditorial de Guillaume Tabar, et puis l'invité de la matinale aujourd'hui, Gaspard Koenig, qui publie « À quoi ?» alors que les experts de l'ONU alertent sur les menaces de pénurie d'eau. Et à la une de ce journal, Lénaïque, ce divorce, pas forcément à l'amiable, entre la France et les États-Unis.
Le sommet de Davos sera sans doute très révélateur en réaction aux menaces répétées de Donald Trump qui souhaite annexer le Groenland. La France demande ce matin un exercice de l'OTAN sur l'immense île arctique. Elle est prête à y contribuer. Voilà ce que nous dit ce matin l'Élysée. Chacun montre donc chaque jour un peu plus les muscles sur le plan diplomatique et économique, avec également cette illustration, le gel de la ratification de l'accord commercial du mois de juillet avec les États-Unis. Emmanuel Macron s'est même posé la question de savoir si le président américain était toujours un allié. Et pour Pascal Lecamp, qui est député MoDem de la Commission européenne des affaires économiques, il faut faire plus.
On assiste à une succession de déclarations de guerre, soit commerciales, soit géopolitiques ou territoriales. À un moment donné, il faut dire stop. Le seul objectif de Trump, on le voit bien aujourd'hui, c'est une escalade de la discorde pour que les pays européens n'aient pas le même intérêt. Donc je vois bien aujourd'hui Mélanie qui commence à dire on pourrait peut-être négocier, il n'a pas vraiment voulu dire ça, etc., etc. Et on va se trouver dans une situation où on ne pourra pas actionner l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Pour ça, il faut avoir une majorité qualifiée. Il faut d'abord créer la solidarité européenne pour ensuite décider de quelle politique de rétorsion on applique aux États-Unis.
Et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, elle espère pouvoir ramener le président américain à la raison. Mais si le Parti populaire européen, le plus grand groupe de l'hémicycle, redoute l'escalade, les sociaux-démocrates et les libéraux, eux, considèrent qu'il est temps, effectivement, de faire preuve de fermeté.
Les eurodéputés, par ailleurs, mis au pied du mur après l'accord sur le Mercosur.
4500 agriculteurs venus de toute l'Europe sont réunis depuis le Parlement européen à Strasbourg depuis hier. C'est un peu le rassemblement de la dernière chance pour s'opposer au traité. Une fois n'est pas coutume, les eurodéputés vont en majorité se prononcer sur des lignes nationales plutôt que partisanes. Ils doivent décider ou non de saisir la Cour de justice de l'Union sur la validité de l'accord. Les deux eurodéputés français vont sans doute voter pour, mais le résultat est très serré. Et en coulisses, les tractations vont bon train. Voilà ce que nous raconte Céline Himard, eurodéputée du Parti populaire européen.
Selon nos derniers comptages, on pourrait gagner ce vote à 8 voix près. Alors, il y a énormément de pression, en fait, qui se joue sur les différentes délégations des différents groupes. Donc, ça peut bouger jusqu'au dernier moment. C'est absolument pas une assurance. Chacun essaie de convaincre, en fait, ses nationalités dans son propre groupe de voter pour ou contre ses intérêts nationaux. Donc, évidemment, nous, on va pas chercher à convaincre ni les Allemands, ni les Espagnols, mais on va chercher plutôt à convaincre des délégations qui pourraient basculer avec nous et avec les Polonais pour renforcer notre majorité. Mais évidemment, ceux qui ont beaucoup d'intérêt à voter cet accord et à ne pas saisir la CJUE, cherchent aussi à convaincre leurs homologues respectifs.
Deuxième jour d'une audition cruciale pour Marine Le Pen au palais de justice de Paris pour son procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du RN. Il n'y a pas eu de système généralisé. 5 heures d'audition au cours desquelles Marine Le Pen a tenté de convaincre la cour d'appel qui la juge pour détournement de fonds. Soulager, apaiser, soutenir, le texte sur l'aide à mourir étudié depuis hier au Sénat à l'ouverture de ces débats très sensibles. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a résumé la position d'une grande partie de la droite qui est majoritaire à la Chambre haute avec ses alliés centristes. Le risque, c'est qu'il devienne demain plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin. Les débats vont durer une semaine avant un vote solennel qui est prévu mercredi la semaine prochaine, justement.
Radio Classique 8h04. L'intelligence artificielle bouleverse le monde du travail. Aux États-Unis, Amazon et Microsoft ont déjà licencié des milliers d'employés et ça arrive en France.
Pour le moment, seuls les métiers manuels semblent être épargnés par cette déferlante de l'IA. On a donc appris hier que 2400 postes étaient menacés chez Capgemini. Le géant de l'informatique va privilégier les reclassements et les départs volontaires. Dans son communiqué, le groupe s'explique et évoque, je cite, les mutations technologiques. Mais attention, l'IA a parfois bon dos, Zoé Pallier.
Des suppressions de postes massives à cause de l'intelligence artificielle, l'argument étonne un peu les experts. Car dans les entreprises, l'IA ne permet pas encore de gagner clairement en productivité.
Pour le moment, le compte n'y est pas.
Malo Mofakami, chercheur en économie à l'université Sorbonne-Paris-Nord.
Par exemple, il y a des logiciels de comptabilité qui aujourd'hui utilisent de l'IA. Si vous avez ces logiciels qui sont à 95% performants mais qui font 5% d'erreurs, en fait, pour un consommateur, c'est bluffant. Mais pour une entreprise, c'est énorme. 5% d'erreurs. Des comptables bien formés, bien organisés, ils font pas 5% d'erreurs, ils en font beaucoup moins.
Pourtant, cet automne, l'entreprise de conseil Accenture a supprimé 11 000 postes, officiellement, là aussi à cause de l'intelligence artificielle. Naila Glaise est salariée d'Accenture et présidente du syndicat européen des cadres, Eurocadre.
C'était une excuse bidon et c'était un moyen de rassurer les actionnaires, de leur dire, regardez, nous innovons pour mettre en place l'intelligence artificielle. Ça passe mieux que dire, on se débarrasse des salariés simplement parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs.
Mais dans l'opinion, l'intelligence artificielle est perçue comme une vraie menace pour l'emploi. Si on leur dit qu'ils seront remplacés par une IA, les salariés ont du mal à contester, ce qui en fait un argument presque irréfutable pour les entreprises.
Les explications de Zoé Pallier pour Radio Classique.
Les Naïcs, merci, je vous dis à demain. Aujourd'hui c'est mercredi, donc Samuel Blumenfeld est là pour le Choix Cinéma. Bonjour Samuel.
Bonjour David.
Vous nous conseillez cette semaine un film très attendu, l'adaptation du best-seller de Giuliano D'Empoli, Le Mage du Kremlin, qui raconte l'ascension de Vladimir Poutine avec un Jude Law dans le rôle du président russe.
Oui. Alors je dirais l'ascension de Vladimir Poutine et pas que. Ce qui est l'un des nombreux intérêts de ce très bon film, c'est que le film d'Olivia Sayas nous met ce qui n'est pas spécialement mis en valeur dans le roman de Empoli, c'est ce moment très étrange séparant la chute du mur de l'ascension de Poutine. Ce moment où la Russie, semble-t-il, va s'occidentaliser, pourrait devenir une démocratie. Ce moment, en fait, où la jeunesse soviétique s'émancipe, devient russe, entre autres choses, s'ouvre, en fait, aux libertés occidentales, au rock'n'roll. En fait, une parenthèse magique que met en scène avec extrêmement de pertinence ce film. Une autre chose aussi, c'est bon, nous parlons de Vladimir Poutine, savoir est-ce que Jude Law fait un bon Poutine dans le film? Oui, il fait un remarquable Poutine parce que tout simplement, il n'est pas dans l'imitation mais la recréation. Mais je dirais qu'au-delà de Poutine, ce que met en scène ce film, c'est un formidable méchant. C'est un méchant hitchcockien. Hitchcock disait toujours, un film vaut ce que vaut son méchant. Et donc, si là, on met cette jauge ici, Le Mage du Kremlin est un excellent film parce que son méchant est inoubliable.
Hervé Gattegnaud, qui n'a pas vraiment aimé le livre, me disait qu'il avait aimé le film, donc on peut aimer l'un, ne pas aimer l'autre, enfin bon.
Ah oui, c'est absolument sans problème. Voyons tout simplement ce film, au-delà du strict contexte russe, dont nous sommes abreuvés chaque jour, voyons-le comme une parabole sur le pouvoir, comment fonctionnent des réseaux d'influence au sommet de l'État. C'est absolument passionnant.
Avec cette originalité qu'il montre une phase de transition, en fait, cette espèce de printemps démocratique qui va accoucher d'un début de dictature.
Absolument. C'est comment, en fait, un fonctionnaire mal situé se trouve curieusement choisi, arrive malgré tout au sommet de l'État à s'y maintenir assez brillamment, dans son genre, et puis ce fonctionnaire, tout simplement, il irrigue notre quotidien désormais.
Alors on va le voir avec qui, ce Mage du Kremlin?
On y va avec quelqu'un qui a déjà découvert The Apprentice, donc qui mettait en scène l'ascension de Donald Trump. Bien ici, nous avons l'ascension de Vladimir Poutine, et nous n'en avons pas fini.
Deux films pour le prix d'un avec Samuel Blumenfeld, mais en tout cas cette semaine, c'est le Mage du Kremlin, à lire et à voir au cinéma avec Jude Law et Paul Dano, adapté par Olivier Assayas. The Apprentice, vous le trouverez sur les plateformes de téléchargement. Merci, à la semaine prochaine. Voici Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. C'est notre Mage de la politique à nous sur Radio Classique. Il est 8h09.
Pour garantir la réussite de votre transformation, faites équipe avec Valtus, leader français et mondial du management de transition. Depuis 25 ans, nous sécurisons vos transformations et vos projets stratégiques. Valtus, c'est 60 000 dirigeants expérimentés dans 28 pays, mobilisables immédiatement. Partenaire de l'édito Eco, Valtus réalise plus de 1 000 missions chaque année.
Samedi prochain, retrouvez la chronique « Bleu comme le monde » avec Caroline Forge. Cette semaine, nous verrons comment la société civile peut se mobiliser pour soutenir des projets scientifiques de protection de l'océan.
Bleu comme le monde, le rendez-vous dédié à la préservation de l'eau sous toutes ses formes, chaque samedi à 8h54 sur Radio Classique.
Bleu comme le monde, avec Banque Populaire, la banque de la voile et du surf, engagée pour la préservation de l'eau.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Allô ? Vous dites que vous n'avez toujours pas reçu le chèque ? Ah mais c'est normal, c'est parce que je ne vous l'ai pas envoyé. Ah non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe, je ne paye jamais. Non, parce qu'après les gens s'habituent, ça finit par me coûter une fortune, vous comprenez ?
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2025, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence.
Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui.
Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Météo, il est 8h du matin, on va pas manger des sardines, ça va pas bien toi.
C'est peut-être votre fils qui ne va pas bien.
Des tartines maman, des tartines.
Ou alors c'est votre audition qui commence à baisser. Chez Écoutez Voir, faites le point sur votre audition et prenez rendez-vous sans plus tarder. Écoutez Voir, optique et audition.
Mutualiste.
Bilan auditif à but non médical ne permettant pas l'essai ou la vente d'aides auditives. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Pour un bilan auditif complet, il est recommandé de consulter un médecin ORL. De vente soumis au code de la mutualité.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous éco de la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Gaspard Koenig, dans 5 minutes, il publie Aqua sur les risques de pénurie d'eau. C'est un roman qui raconte comment un village est confronté au stress hydrique. Un village de Normandie, pas un village du Luberon. Mais avant cela, Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume Tabar.
Bonjour David.
Alors ça y est, c'est fait. Le 49.3 a été déclenché sur le budget. La censure sera probablement repoussée après-demain. Peut-on tirer un premier bilan de cette longue, longue, longue séquence ?
Oui, hein, et un bilan qui n'est glorieux pour personne. En déclenchant le 49.3, Sébastien Lecornu a dit qu'il le faisait avec amertume. Mais amertume, je pense que c'est un mot qui résume bien ce mauvais feuilleton du budget. Bon, c'est entendu, tout est parti de l'absence de majorité à l'Assemblée, même relative. Il a bien fallu faire avec, mais au risque d'être répétitif, on mesure une fois de plus à quel point la dissolution n'a pas été simplement une erreur, mais une faute lourde aux conséquences irrattrapables d'ici à la présidentielle. Encore une grosse année à tenir, une grosse année à ne rien faire, ou plus précisément à ne rien faire de bon. L'autre leçon, c'est le fiasco total du rêve d'un compromis. Souvenez-vous, hein, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Yael Braun-Pivet, etc., nous disaient « Vous allez voir, d'un mal, on va faire un bien », c'est-à-dire que toutes les forces politiques que l'on décrétait être de gouvernement allaient être bien obligées de travailler ensemble et de trouver des compromis. Chacun ferait un pas, chacun formulerait sa demande et ferait des concessions. Le budget serait celui de personne, mais de tout le monde à la fois.
Mais ça c'est impossible tant qu'on n'a pas supprimé l'élection présidentielle, parce que les gens ne pensent qu'à ça au lieu de faire des compromis. N'est-ce pas ce à quoi on aboutit finalement ?
Eh ben, pas du tout, car même si dans ses ultimes concessions, le Premier ministre a cherché à prouver qu'il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Mais si on déroule toute la séquence, quel compromis y a-t-il eu ? Que ce soit sur le budget de la Sécurité sociale ou le budget général, on a eu un groupe, le PS, qui représente 10% de l'hémicycle, qui a annoncé des exigences. Suppression de la réforme des retraites, taxation des riches, dépenses supplémentaires et... À part la taxe Zuckmann, le PS n'a renoncé à rien et le gouvernement a cédé à presque tout. Il n'y a pas eu co-construction du budget, il y a eu un bras de fer remporté par les socialistes. Et donc la Mertim, elle est aussi du côté des partis de l'ancien socle commun qui se retrouvent comme otages d'une négociation qui avait pour seul objectif d'éviter à Sébastien Lecornu d'être renversé comme Michel Barnier et François Bayrou l'avaient été avant lui.
Ne peut-on pas quand même donner acte à Sébastien Lecornu de s'être battu jusqu'au bout pour parvenir à cet accord ?
Ah, ça, pour s'être battu, il s'est battu et on doit lui reconnaître à la fois de l'opiniâtreté et de l'habileté. Mais que retient-on de la méthode Lecornu ? Ben, d'abord et avant tout, l'engagement de renoncer au 49-3. Ça n'était pas uniquement un pari, c'était une promesse. Eh bien, il ne l'a pas tenue. Alors, ce n'est certes pas uniquement de sa faute, mais en prenant cet engagement, il savait qu'il pouvait être amené à se déjuger. Eh bien, dans un moment où la parole politique souffre déjà d'un déficit abyssal de crédibilité, ce revirement, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fait pas du bien. Et cela aussi participe à cette impression d'immense gâchis.
Et que de temps perdu. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, vous le retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr, sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, Guillaume.
À demain.
Et maintenant, l'invité de la matinale. La planète est désormais entrée dans l'ère de la faillite mondiale de l'eau. Alerte, un rapport de l'ONU publié hier. Une perte irréversible due aux activités humaines. C'est l'occasion de recevoir le romancier philosophe qui vient de publier « À quoi ?» aux éditions de l'Observatoire. Gaspard Koenig, bonjour.
Bonjour, bonjour David.
Merci d'être avec nous ce matin, en pleine actualité environnementale et avec cette annonce sur la faillite mondiale de l'eau par une agence et un expert onusien. Votre précédent roman portait sur la terre et sur les menaces qui pèsent sur les vers de terre. Et maintenant, vous nous parlez de l'eau. J'imagine que la prochaine fois, ce sera l'air. Je ne sais pas. On va s'arrêter sur l'eau. Est-ce que vous êtes surpris, d'abord, qu'une agence onusienne sonne la faillite mondiale de l'eau? C'est une drôle de formule, mais enfin, elle sonne de façon très pédagogique.
Bah, quand j'ai préparé ce livre, c'est ce que j'ai vu et lu un peu partout. Dès qu'on commence à parler avec les hydrologues, les hydrogéologues, que ça soit en France ou dans le monde, effectivement, il y a qu'à voir aujourd'hui que Ankara et Téhéran sont menacés de rupture d'eau à cause de sécheresses pluriannuelles, c'est-à-dire de sécheresses qui se répètent. Et ça, c'est parfaitement anticipé par les scientifiques. C'est très clairement énoncé dans les rapports du GIEC. Donc je pense que c'est pas une grande surprise pour la communauté des scientifiques. Mais en France, je pense que autant la prise de conscience sur les problèmes de qualité de l'eau, de pollution de l'eau commence à se faire, les gens se demandent si je peux vraiment boire telle ou telle eau. Mais sur la question de la quantité, on a toujours l'impression que c'est une ressource complètement infinie, on sait plus d'où elle vient. On appuie, moi le premier, avant d'écrire ce livre, sur le bouton du robinet ou de la douche, et puis ça coule naturellement, et on s'interroge même plus sur la provenance de cette eau. Je discutais avec des gens très érudits, éduqués, qui me demandaient si vraiment l'eau qu'on buvait, c'était l'eau qui était tombée du ciel. Ben oui, en fait, l'eau qu'on boit, c'est l'eau de pluie qui est tombée pas très loin de chez nous, à quelques dizaines, voire une centaine de kilomètres. Peut-être qu'elle est restée 10 000 ans dans des nappes, peut-être qu'en fait, c'est un tout petit cycle de l'eau qui a duré 3 mois, mais c'est effectivement l'eau de pluie, parce que on a beau être dans un monde hyper moderne, hyper connecté, où on peut envoyer des datas dans la Silicon Valley en un centième de seconde, et ben l'eau est une ressource locale, et donc c'est une ressource qui nous rattache à notre milieu. Même quand on vit à Paris, eh bien, on est dans un milieu. S'il ne pleut plus, eh bien, on n'a plus d'eau. Voilà, et on n'a plus d'eau à boire. Et ça, c'est effectivement la promesse de catastrophe humanitaire d'une ampleur inconnue. Parce que quand il n'y a plus d'eau dans une ville ou dans une mégalopole, on a 3 jours pour assurer sa survie.
Gaspard Koenig, pour nous avertir de ce risque imminent, vous n'avez pas choisi de faire un rapport que vous auriez pu rédiger pour l'Organisation des Nations Unies, vous avez choisi le roman, ça s'appelle « À quoi ?» et c'est un village français qui est confronté à cette possibilité du manque d'eau. Quels constats objectifs vous ont-ils conduit à choisir le roman et surtout à confronter une communauté? Finalement, c'est la France en plus petit,
oui,
qui est confrontée à cette problématique de l'eau.
Bah, c'est un peu une répétition générale dans un village qui est effectivement une miniature de ce que peut être une communauté, où les gens sont d'ailleurs pas particulièrement aimables ou vertueux. J'ai voulu être être au plus près et parfois au plus cru de la nature humaine. Et c'est presque une expérimentation littéraire, c'est-à-dire une fois que je prends ces gens tels qu'ils sont, certains avec des grands rêves un peu idéalistes, un peu bobos, mais pas forcément au courant des réalités, certains très centralisateurs, rationalisateurs, certains survivalistes, certains qui juste s'en fichent, hein, la grande majorité en
ou
fait.
Ou qui sont attentistes, ils disent « Vous avez raison Gaspard Koenig, mais en fait, ils font rien. »
Alors, j'apparais pas dans le roman, je vous rassure. Les personnages me parlent pas, j'en suis pas encore à ce stade.
Mais ils parlent à votre héros.
Mais voilà. Et puis, les confronter à une crise de l'eau, et surtout les confronter à une crise de l'eau en Normandie. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque naturel en Espagne ou dans les Pyrénées-Orientales, mais on ne s'attend pas à ce que ça monte au cœur de notre pays. Et la Normandie est en plus une région qui est réputée pour ses précipitations abondantes.
Mais on parle déjà de faire des vignes en Bretagne ou en Normandie, ou d'en replanter. Donc, ça dit aussi des choses.
Oui, alors, il faut savoir que ce que prévoient les scientifiques, et notamment le GIEC, a une déclinaison au niveau régional, en l'occurrence le GIEC normand, c'est pas tellement une diminution du niveau global des précipitations, mais un changement total dans leur répartition, dans leur saisonnalité. Et en fait, ça paraît rien, mais ça perturbe complètement le cycle de l'eau, et ça dépend aussi des géologies. Par exemple, quand vous êtes dans l'ouest de la Normandie, qui est granitique, où se passe le livre, le cycle de l'eau est extrêmement court, parce qu'il n'y a pas tellement de réserves. Le granit est une roche extrêmement dure, et l'eau part très rapidement vers le fleuve et à la mer.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre roman, c'est que vous confrontez effectivement les points de vue, et vous dites, y a quelque chose qui s'oppose, c'est la vision des gens qui habitent et qui connaissent leur terre, et qui connaissent le biotope, si j'ose dire, et puis une vision technocratique, élitiste, parisienne, mais qui est pleine de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'au moins, vous n'êtes pas de ceux qui disent les élites, elles sont méchantes, elles veulent notre mal, ce sont des gens qui veulent faire main basse sur les ressources. Vous dites simplement, ils sont à côté de la plaque.
Alors oui, il y a vraiment deux personnages qui incarnent ces deux visions. Martin Jobard, le neveu de Jobard, pour ceux qui ont lu Humus, qui est devenu énarque, qui travaille au bureau haut au ministère de l'Environnement, et vous ne devinerez jamais où se trouve le ministère de l'Environnement, c'est une tour à la Défense, fallait quand même y penser, mais qui est non seulement, je pense, comme la plupart de nos élites, bien intentionné, sachant, non corrompu.
Vous l'avez quand même appelé Jobard.
Ah ben, ça, c'est pas de ma faute. Son oncle s'appelle Jobard, son père s'appelait Jobard, et donc voilà, c'est la dynastie des Jobard. J'espère en faire un nom commun très vite. Et lui, évidemment, il veut faire ce que veulent faire les préfets aujourd'hui, avec une logique, une raison que je mets en scène. C'est pas ni des fous, ni des gens malveillants. Tout raccorder et faire passer, prendre l'eau comme une ressource au fond qui va d'un tuyau à l'autre, qu'on peut gérer avec beaucoup d'énergie entre un château d'eau, des pompes, bon, dans d'autres contextes, des usines de désalinisation d'eau de mer. Et puis, de l'autre côté, une logique très localiste qui veut, au contraire, prendre soin de sa ressource, aller retrouver le sens de la source. Il existe toujours des sources, on les a oubliées, mais il y a encore beaucoup de villages qui sont alimentés par leur source, même si la source, on ne la voit plus, on ne sait plus où elle est. Elle est généralement maintenant protégée par un petit cabanon de béton dont les gens ne savent plus à quoi il sert. Et pourtant, il y a toujours des sources et il y a toujours des traitements assez locaux de l'eau ou dans une toute petite usine, le maire va rajouter un peu de chlore de temps en temps dans la bonbonne. Et ce que je voulais opposer, c'est effectivement ce savoir vernaculaire qui a un sens, parce que même s'il ne peut pas s'expliciter, même si dans le discours il n'est pas aussi sachant, il vient d'une pratique empirique du territoire qui porte aussi une forme de scientificité.
Et de solutions.
Et de solutions, et auxquelles s'intéressent beaucoup les hydrologues aujourd'hui.
Et ça porte aussi la littérature que vous écrivez, parce que c'est un roman, c'est de la littérature, et cette source dont vous en parlez, ben, vous la décrivez merveilleusement. Je vais vous lire, Gaspard Koenig. La source, en revanche, fut immédiatement adoptée. C'était un suintement diffus et ininterrompu, comme si la terre saignait et répandait à la surface son fluide vital. Une noria de femmes, d'hommes et de mulets parcourait toute la journée le chemin d'un petit kilomètre qui séparait la source des maisons. On construisit des murettes latérales pour créer un bassin plus propre, bien délimité, avec une ouverture près du bord pour que s'écoule le trop-plein, des rigoles autour pour drainer l'eau de pluie et de grosses pierres sur le côté pour éviter que le bétail ne s'y abreuve. La mare gadouilleuse où Firmin s'était enfoncé devint ainsi une fontaine maçonnée qui faisait la fierté du pays. Cette source, on la connaît tous.
tout Français qui a de la famille à la campagne, il a vu quelque chose comme ça.
Eh ben, je suis pas sûr.
Pensez qu'on a oublié.
Bah maintenant, sur les cartes IGN, la source c'est SCE. Il y a plus de chemin qui mène à la source. Et la source, elle est emmurée quand même depuis maintenant 40 ou 50 ans. Donc là, je retrace un peu la légende du village. Je me suis d'ailleurs inspiré des légendes normandes autour de l'eau, parce qu'évidemment, l'eau, c'est à la fois un objet de politique publique extrêmement complexe, avec plein de sigles, des sradettes, et j'en passe et des meilleurs, mais c'est aussi un objet mythologique. On sent bien que l'eau, c'est ce qui nous rend humains, c'est ce dont on est constitué, c'est évidemment là d'où vient la vie, c'est ce qu'on essaye de retenir quand on est sur Terre, qu'on soit une plante, un homme ou un sol, parce que on a besoin de la stocker, et c'est quelque chose qui nous relie à notre passé le plus profond. Et donc, il y a une espèce de tension entre cette manière très poétique, presque, d'envisager cet élément et sa gestion administrative aujourd'hui.
Gaspard Koenig, je voudrais vous faire écouter quelqu'un. En 74, il était candidat à l'élection présidentielle, il portait un pull rouge, il s'appelait René Dumont. Voilà ce qu'il disait.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Au revoir, et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
René Dumont, 1974, campagne présidentielle. Vous êtes philosophe, Gaspard Koenig. Ce que vous expliquez dans votre livre, ce que les écologistes expliquent depuis 50 ans est connu. Comment expliquez-vous qu'on ait tant de mal à passer du constat à l'action, d'autant que, autant le réchauffement climatique, on se dit j'ai le temps de transpirer, j'ai le temps d'avoir chaud. Mais quand les gens vont commencer à avoir soif, ils vont s'apercevoir du danger. Et il sera trop tard.
Alors d'abord, cette scène avec René Dumont est magnifique et il a vraiment un air auguste d'empereur romain quand il boit cette eau en fixant le téléspectateur, et on a vraiment l'impression quand il la boit que c'est quelque chose de très précieux, qu'il est en train de boire sa dernière goutte d'eau dans le désert, et je sais pas, il y a quelque chose de très fort dans cette scène qui a été très moquée à l'époque. Aujourd'hui, on est passé en 2022, lors de notre dernière grande sécheresse, très proche de la rupture d'eau, notamment dans les communautés normandes auxquelles je m'intéresse. Et puis, finalement, à quelques jours près, les réservoirs se sont à nouveau remplis. Mais il est très clair que nous allons affronter des sécheresses pluriannuelles, c'est-à-dire que ça sera 2022, puis 23, 24, 25, pareil, et qu'à ce moment-là, le problème va devenir patent. Et c'est ça que je mets en scène dans le livre, c'est que je veux l'incarner, ce problème, et montrer aussi que c'est, comme souvent hélas dans l'humanité, mais après tout, pourquoi pas, dans la crise, que, un, des solutions se dégagent, et que, deux, on réapprend à faire communauté, à faire village.
Gaspard Koenig, il nous reste une minute. Vous avez écrit ce livre qui a nécessité une très grosse documentation. Votre consommation d'eau a-t-elle changé, sachant que vous vivez maintenant une bonne partie de votre existence à la campagne, avec un jardin potager, enfin, le libéral est devenu écolo?
Moi, j'ai le classique, hein, j'ai une citerne de récupération d'eau de pluie qui sert aux toilettes, pour pas mettre d'eau potable dans les toilettes, et puis au jardin. Et j'ai par ailleurs un forage, un puits, que ensuite je traite dans la cave avec des UV pour éliminer les pires bactéries, et que je bois. Mais je vais vous dire, paradoxalement, après avoir écrit ce livre, je suis devenu moins économe de mon eau. Parce que je me suis aperçu que la consommation humaine, c'est vraiment pas le cœur du problème.
Ouais.
Le cœur du problème, c'est les usages agricoles, industriels, les conflits à venir, justement, autour de ces usages, conflits qui, dans le livre, peuvent être résolus. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité d'une résolution, justement, par la démocratie locale vivante, les communs. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative, qui est un phénomène à la fois, enfin, qui est un processus qui doit être à la fois scientifique, hydrologique, mais qui est aussi un processus démocratique. On n'aura pas d'eau si on se parle pas les uns aux autres.
Gaspard Koenig, qui parle aux auditeurs de Radio Classique ce matin avec Aqua, son dernier roman, œuvre littéraire, œuvre utile aux éditions de La Découverte, à lire d'urgence si vous ne voulez pas que la Terre meure de soif très prochainement. Merci Gaspard Koenig.
Merci David.
À suivre, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Anne de Guigné, Radio Classique, il est 8h28.
Ah, Chez Air Caraïbes, ils ont du XXL.
Du XXL ?
Eh oui, confort XXL pour voyager en classe premium économie dès 999 € ou en classe affaires à partir de 1499 €.
Pour aller où ?
Guadeloupe, Martinique, bref, toutes les destinations Air Caraïbes. Tu vois, je te l'avais dit que j'avais besoin du XXL.
XXL pour la classe, le siège et le service aussi.
Jusqu'au 22 janvier 2026, profitez des instants promos d'Air Caraïbes et voyagez avec un confort XXL. Rendez-vous sur aircaraïbes.com. Offre soumise à condition.
Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Chez Action, nous avons toujours des prix extrêmement bas. Cette semaine, une crêpière Tristar pour 12,48 €. Ou le nettoyant WC Miss Bubble 750 ml pour seulement 1,34 €. En voilà des offres qui vous rendent vraiment heureux. Pour encore plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou dans l'appli. Action, petit prix, grand sourire.
Ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attend que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Maison Philippe.
Pour la succession, nous avions une myriade d'objets dont nous ne savions que faire.
Nous avons donc fait appel à la Maison Philippe.
Ils se sont déplacés.
Ils ont estimé le prix et ont payé comptant.
Ils ont tout débarrassé. Un vrai soulagement.
Objets chinois, livres, tableaux, sacs à main, montres, bijoux, bibelots, objets en or et en argent, même défectueux. Appelez la Maison Philippe au 06 07 58 23 23. 06 07 58 23 23. Maison Philippe, Antiquité Raspail, Paris 6e.
Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique. Et vous nous présentez justement Private Discus.
Private Discus, c'est la solution de visioconférence. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout, c'est 100% français. Nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients, contrairement aux géants du marché.
Private-discus.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
T'es où ?
Je me suis perdu, trop d'offres.
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 € de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h30, Charles Bonner pour le rappel des titres.
La France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et se dit prête à y participer alors que les États-Unis de Donald Trump veulent s'emparer du territoire. Face au désaccord des Européens, des droits de douane seront imposés à 8 pays début février. Donald Trump est d'ailleurs à Davos. Aujourd'hui, il s'exprimera en début d'après-midi. Un vote sur le Mercosur au Parlement européen, un vote sur une saisine de la Cour de justice européenne qui pourrait décaler l'entrée en vigueur de l'accord. Le vote s'annonce serré. Les députés devraient voter surtout selon leur nationalité plutôt que leur groupe politique. Et puis les ZFE, les zones à faible émission, en route pour la suppression. Députés et sénateurs se sont mis d'accord hier. La suppression ne serait confirmée qu'en cas d'adoption définitive de la loi simplification.
Charles, merci. À demain. Tout de suite, Hervé Gattegnaud pour la revue de presse. Il est 8h31. Vous écoutez Radio Classique. Hervé, mes respects.
Bonjour.
Des problèmes de tension et d'attention dans la presse du jour.
C'est un problème de tension à bord d'Air Force One, d'abord, qui a contraint Donald Trump à rebrousser chemin alors qu'il partait pour la Suisse. Selon le site du Figaro ce matin, l'équipage a détecté un problème électrique mineur. Le président américain a dû changer d'avion et il sera bien à Davos aujourd'hui. À Davos, les débats vont se dérouler sous très haute tension. Le ton monte entre l'Europe et Donald Trump. Titre en une, Les Échos. L'Europe durcit le ton, renchérit la croix. L'Europe se prépare au divorce avec les États-Unis, titre Le Figaro. Divorce dans la douleur, car le journal L'Opinion imagine déjà Davos non plus comme un forum, mais comme un ring, tant c'est un affrontement qui s'y annonce. Le Parisien s'attend à un bras de fer entre Trump et Emmanuel Macron. Duel à Davos prédit même Libération. En première page de la Tribune, Trump serre le poing, mine renfrognée. Et ce titre qui dit l'essentiel, la méthode du chaos. Visiblement, la méthode fonctionne.
Le Figaro consacre un long portrait à l'écrivain Giuliano d'Empoli, que le journal a justement rebaptisé le mage du chaos.
Contraction des titres des deux livres qui l'ont rendu célèbre. Le mage du Kremlin, dont l'adaptation au cinéma sort aujourd'hui et les ingénieurs du chaos qui décrit l'essor des néo-populistes d'extrême droite dopés aux algorithmes. Il a aussi publié l'an dernier « L'heure des prédateurs », expression reprise par Emmanuel Macron dans ses discours, relève Eugénie Bastier dans ce portrait du Figaro. Personnage mystérieux à l'accent italien, écrit-elle, Giuliano da Empoli est devenu central dans la vie littéraire et intellectuelle française. Pourquoi ? Parce qu'il a le don de clarifier les chambardements du monde et parce qu'il préfère la lucidité à l'indignation. Da Empoli est le fils d'un économiste de gauche qui s'est fait tirer dessus par les brigades rouges en Italie. Son premier contact avec la politique comme une lutte violente, dit-il. Il a longtemps lu 4 livres par semaine. Devenu écrivain, il en a vendu 1 200 000 en 3 ans.
C'est vrai que se faire tirer dessus par les brigades rouges, ça doit aider quelqu'un de gauche à se recentrer. On peut être sûr que Donald Trump, lui, n'a pas acheté ses livres.
Non, car Giuliano da Empoli raconte ceci. Trump non seulement ne lit aucun livre, mais n'est même pas capable de lire une note d'une seule page de ses conseillers. Il faut tout lui transmettre à l'oral. À quoi sert donc la culture, la littérature, la mémoire des classiques, à l'heure des puissants sans vergogne ni lettres, du règne de la force brute, questionne Eugénie Bastier. Da Empoli répond qu'il ne croit pas à la littérature qui sauve le monde, mais si les lettres sont impuissantes à sauver le monde, écrit la journaliste du Figaro, décrire les puissants, c'est déjà les affaiblir.
Et pour la littérature qui sauve le monde, je vous renvoie au livre de Gaspard Koenig, À quoi ? La Croix consacre une double page à un sujet qui donc n'intéresse pas Donald Trump, c'est la lecture de nuit.
Idéal pour éloigner la tension qui trouble le sommeil, oublier le chaos ambiant. La lecture est un moment rêvé pour la nuit, pardon, est un moment rêvé pour la lecture, écrit le quotidien catholique. Pour nombre de lecteurs, lire la nuit, c'est lire juste avant l'ensommeillement. Mieux que le smartphone, le livre aide à entrer dans la nuit, apaise les pensées, réduit le stress. Pour certains, 2 pages suffisent. Pour d'autres, il faut nettement plus. À force de relire le même passage, on s'endort parfois la lampe allumée. C'est un plaisir, un besoin ou une obligation. À 12 ans, on lit sous les couvertures avec une lampe de poche. À 20 ans, on lit jusqu'à pas d'heure pour réviser. À 40 ans, pour profiter d'un moment à soi. À 60, pour combattre l'insomnie. Marie, haut fonctionnaire, témoigne dans La Croix. Si je suis prise d'insomnie passé 4 heures, il m'arrive de lire jusqu'au petit matin, mais je suis aussi tentée de répondre à mes mails. Lire peut donc aider à trouver le sommeil, mais lire sert aussi à rester éveillé.
Au procès des assistants européens du Rassemblement national, Marine Le Pen a été longuement interrogée hier. Apparemment, elle n'en est pas sortie indemne.
Dos rond et petits souliers, le Parisien décrit Marine Le Pen à la barre. Manches retroussées, 2 petites fiches blanches posées devant elle. Contrairement à Trump, elle peut lire plus d'une page. Donc, connue pour sa verve et sa répartie, elle commence l'audience mezzo voce sur la pointe des mots. Elle hoche la tête en écoutant la présidente du tribunal, multiplie les « Vous avez parfaitement raison, madame la présidente ». C'était peut-être contestable, condamnable, dit dit-elle, le fonctionnement n'était peut-être pas idéal, mais tous ces gens travaillaient. Seulement, la question du procès est pour qui travaillait-il ? Par qui était-il payé ? Et sur bien des cas, Marine Le Pen esquive, plaide l'oubli. Elle conteste en tout cas l'idée d'un système destiné à capter l'argent du Parlement européen. Tout un tas de mails laissent entendre que vous pourriez être associé à la décision, souligne la présidente. Le visage de Marine Le Pen est tendu, le ton monte progressivement à mesure que les questions se font plus précises, raconte le Parisien. Marine Le Pen est mise en difficulté, observe le Figaro. Certaines de ses réponses sont bien courtes, juge Le Monde.
On ne connaît pas les réponses de Julio Iglesias. Le chanteur espagnol est accusé d'agression sexuelle. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Un scandale majeur en deçà des Pyrénées. Le célèbre crooner ibérique à la voix câline, l'espagnol le plus connu du XXe siècle, est en pleine tourmente. Les révélations du Julio Gate sont venues du quotidien El Diario. Julio Iglesias, 82 ans, est mis en cause par son ancienne femme de ménage et par une physiothérapeute qui évoque des attouchements et des rapports sexuels forcés. Et voilà toute son histoire et sa carrière revisitée à l'aune de ces accusations sordides, accusations qu'il dément. Julio Iglesias, ses 78 albums, 300 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, une fortune estimée à 800 millions de dollars. Vous les femmes, vous mon drame, soufflait-il langoureusement dans une chanson fameuse et prémonitoire donc. Il fut le symbole du macho ibérico qui se vantait à la télévision, à 70 ans bien tapé, de faire encore l'amour trois fois par jour et d'avoir couché avec plus de 3000 femmes, cite le Parisien. Mais ses vantardises se retournent contre lui à l'heure où l'Espagne est en pointe dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le beau Julio chantait le jour, il aurait peut-être mieux fait de lire la nuit.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges.
Julio Iglesias, dans la revue de presse d'Hervé Gattegno. Si on me l'avait dit un jour, je crois que je ne l'aurais pas cru. Julio Iglesias qui chantait
c'est
aussi...
C'est l'actualité qui commande, David.
Bien sûr, il chantait aussi « C'est permis d'aimer la vie et d'aimer l'amour ». Mais non, tout n'est pas permis, même en amour. Hervé, vous revenez demain ?
Certainement.
À suivre, Esprit Libre avec Anne de Guigny et Ruth Elkrief. Il est 8h39 et vous écoutez Radio Classique et vous avez raison.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Mais qu'est-ce qu'elle a écrit ? Galette ou raclette ?
C'est peut-être votre femme qui s'est mise à écrire en tout petit.
Bon bah tant pis, je vais prendre les deux.
Ou alors c'est votre vue qui commence à baisser. Chez Écoutez Voir, faites le point sur votre vue et prenez rendez-vous sans plus tarder. Écoutez Voir, optique et audition.
Mutualiste.
Bilan visuel à but non médical. Demandez conseil à votre opticien. Pour un bilan visuel complet, il est recommandé de consulter un médecin ophtalmologiste. Point de vente soumis au code de la mutualité.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, hein. Elle n'est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Envie de confort ? Envie de choix ? Envie de grande marque ? Envie de... Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les plus grandes marques de mobilier contemporain. Caligaris, Stressless, Imola, Neology, Ralph M, Mobilier de France, Duvivier. Canapé, canapé-lit, fauteuil de relaxation, table de repas, armoire-lit, dressing.
Espace Topair, 3000 m² pour toutes vos envies. 63 rue La Convention et 147 rue Saint-Charles, Paris 15e, 7 jours sur 7. Topair.fr.
Découvrez une oubliée de la médecine au Théâtre La Reine Blanche. La découvreuse oubliée, c'est Marthe Gauthier, pédiatre française qui a découvert la trisomie 21 en 1959, mais qui a été longtemps invisibilisée. Marie-Christine Barrault l'incarne dans la pièce d'Elisabeth Bouchot, mise en scène par Julie Timmerman, et qui raconte son combat pour faire reconnaître sa vérité. Avec aussi Marie Toscan, Mathilda Maliarakis et Mathieu Desfemmes au Théâtre La Reine Blanche à partir du 22 janvier.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider, comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
8h42, retrouve Esprit Libre avec Routel Krief et Anne de Guigné. Routel Krief qui, avec son flair habituel, a deviné ma première question alors que je ne lui ai rien dit. C'était une question surprise. Je vous pose cette question à toutes les deux. Quel est l'effet, l'efficacité, l'utilité de ces lunettes miroirs qu'arbore Emmanuel Macron depuis quelques jours, sachant qu'il a un vaisseau éclaté dans l'œil, mais on pourrait très bien se dire que bon, c'est pas si dramatique d'avoir un petit problème à l'œil.
Oh! Devant le monde entier, c'est pas terrible d'avoir un vaisseau éclaté, un œil tout rouge. Ça a l'air d'être extrêmement violent ou en tout cas blessé, quoi. Mais c'est vrai que ces lunettes de Top Gun, je crois qu'il y a vraiment un message subliminal qui est je suis prêt à me battre, quoi.
Ça me rappelle un Sarkozy. J'avais vu Sarkozy avec des lunettes miroir au début de son mandat.
Tout à fait, oui, c'était les lunettes de Sarkozy.
Anne de Guigné du Figaro, qui connaît bien l'histoire de Sarkozy.
Non, mais c'est vrai que l'homme politique doit avoir l'air fort. Et même, vous en avez, vous savez, qui ont une foulure au poignet. Il faut jamais apparaître avec un plâtre. Il y a un côté un peu corps du roi. Il faut montrer qu'on est au-dessus de la mêlée.
Il faut pas avoir l'air d'un bras cassé.
Non, il faut pas, exactement. Il faut pas.
C'est le président.
On ne souffre pas. Et donc, je comprends, moi, les lunettes. Alors, par contre, les lunettes aviator, ouais, là, il y a peut-être un truc plus personnel, mais lunettes de soleil, je comprends assez. Parce qu'avoir l'air, oui, déjà, qu'une petite chose blessée, dans un moment pareil, en plus, où la force domine.
Ça reste que c'est une image dans le monde entier d'un président avec des lunettes miroirs. C'est vrai que c'est un peu perturbant. Mais je ne peux pas croire que ça n'a pas été étudié en amont pour travailler l'image et pour avoir cette image de force.
Bah oui, ça virilise tout, quoi.
Complètement. Et comme ça coïncide avec le contenu du discours qui était de se montrer un peu comme un leader européen qui tient bon face à Trump, alors qu'il a eu des relations avec lui qui étaient plutôt bonnes, puis plus mauvaises, puis plutôt bonnes. Enfin bon, on sait que c'était en dents de scie. D'une certaine façon, ça coïncidait avec son discours.
Vous êtes en train de me dire que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface.
Non, mais ça va avec, c'est sûr. C'est sûr que si vous dites « je refuse la loi du plus fort, je refuse la brutalité » et que vous avez un œil injecté de sang, ça fait peut-être un peu plus peur.
Oui, et après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a une petite faiblesse quand même pour les accoutrements un peu virilistes. Hein, on l'a vu, qui se faisait vraiment prendre en photo en train de s'entraîner à la boxe.
Tout à fait.
Il adore les suites un peu paramilitaires. Donc, il a un petit côté quand même un petit peu enfantin.
Il en rajoute, quoi.
Il aime beaucoup ces déguisements qui montrent que voilà, il a pas peur et qu'il est très solide. Mais moi, je comprends qu'il ait pas montré ce souci de santé dans les circonstances actuelles. Le côté, oui, lunettes Top Gun, moi, ça m'a fait un peu rigoler. Mais c'est lui, il est comme ça. Il en fait un peu too much, il est comme ça.
Alors, on va revenir sur ce qu'a déclaré hier Emmanuel Macron, parce qu'il a fait un discours pro-européen attendu. Avant cela, quand même, Erhout, vous me l'aviez signalé hier, les soutiens français et européens de Donald Trump sont... parce qu'il avait des fans, hein, souverainistes, plutôt à droite, le plus souvent, ou très à droite, ça devient compliqué pour eux.
Ben c'est un sparadrap maintenant. Hein. Vous savez que pendant les élections de 2022, il fallait expliquer ses relations avec Poutine. En 2027, par exemple, pour les Français qui ont adoré, adulé Trump, il va falloir expliquer pourquoi ils ont aimé Trump. Et ça sera difficile. Mais ça dépasse le Rassemblement National, Sarah Knafour, Eric Ciotti, qui ont tous dit que Trump, c'était la meilleure solution, qu'il était admirable, qu'il allait régler les problèmes, pas seulement du monde, mais aussi qu'il allait donner une forme de leçon à la France sur l'immigration, sur... Ils avaient applaudi le discours de J.D. Vance sur l'effacement civilisationnel de l'Europe. Et tout d'un coup, ben voilà, qu'ils s'attaquent aux intérêts des consommateurs européens et donc de leurs propres électeurs. Alors, les réactions sont diverses, mais c'est vrai que Jordan Bardella, hier, a été assez sec et il a j'ai envie de dire il a fait un peu du Macron, quoi. Il a dit c'est du chantage, il faut réagir sinon on va se faire écraser.
Ce qui succédait à la condamnation par Marine Le Pen de l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela.
Oui,
donc
mais en même
c'est
temps,
là aussi que la ligne est compliquée.
Bah, en fait, ce sont des souverainistes. Ils ont un problème avec les opérations commando dans les autres pays. C'est complètement contradictoire avec leur logiciel. En fait, c'est leur héros les trahit en réalité et il devient devient presque un fardeau au lieu d'être un atout. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est l'AFD, les Allemands. Vous savez, ils ont envoyé une délégation gigantesque à Washington, ils ont été récompensés, ils ont fait des compliments incroyables. J.D. Vance a soutenu l'AFD
en
Allemagne.
Dernier,
exactement.
Oui.
Et là, Alice Weidel et son co-président ont dit ce sont des méthodes inadmissibles, c'est du western, ça va pas du tout.
Non, Anne de Guigné.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, le Parlement européen donc a voté la suspension de l'accord transatlantique, donc évidemment pour montrer son mécontentement. Et c'était intéressant, en effet, d'observer les groupes à la droite de la droite. Ils ont réagi différemment. Donc le groupe patriote, où est Jordan Bardella, en effet, était tout à fait virulent, une position très proche des autres, du centre, même de la gauche. L'AFD a son propre groupe, parce que l'AFD a réussi à se faire expulser de tous les autres groupes, donc il est encore plus à droite. L'AFD, en effet, était plutôt sur la même ligne. Et ECR, qui est le groupe qui accueille le parti de Giorgia Meloni, chez nous en France, Reconquête, était le groupe qui est le plus sur le frein, et qui disait, bon, attention, essayons de trouver quand même un compromis. Donc on voit quand même des lignes, il y a une finesse dans les réactions qui montre bien, en effet, qu'il y a des lignes différentes. Et vous avez raison, David, ça fait écho à leur réaction face à l'action contre Maduro, au même moment en France. Marine Le Pen avait condamné très fermement quand Sarah Knafou avait dit, mais non, il a bien raison, tant mieux, un dictateur de moins. Donc on voit bien qu'en fait, il se repositionne.
Macron avait dit ça aussi en substance et il a corrigé derrière.
D'ailleurs, Bardella et Le Pen avaient dit d'abord, le régime de Maduro est absolument indéfendable, il est sanguinaire, il a persécuté ses propres citoyens, mais néanmoins, nous désapprouvons cette opération. Donc c'était une forme d'équilibre un peu subtil comme ça pour essayer de conserver les deux positions. Non, je crois que ce qui se passe, c'est que en l'occurrence pour Marine Le Pen qui est occupée au tribunal, Jordan Bardella se dit j'ai à peine le temps là, il est minuit moins quart parce que il faut absolument prendre ses distances avant 2027 parce que sinon en 2027 on sera accusé d'être trumpiste alors que les droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes, je pense pas qu'il le fera, enfin on n'en sait rien. Etc. Ça va être absolument dévastateur.
Vous me soufflez une question, Ruth, et je vous la pose à toutes les deux. Imaginez que pendant que Madame Le Pen est occupée au tribunal, imaginons qu'elle soit condamnée, on voit que au centre et au centre droite, c'est pas la grande forme des candidats dans les sondages. Est-ce qu'on peut imaginer Anne de Guigné, un Jordan Bardella qui dise, bah, finalement, je vais faire une campagne comme si j'étais à la droite de LR. J'ai pas besoin de faire une campagne comme si j'étais au RN. Est-ce que c'est envisageable, tout en gardant l'étiquette RN, mais en s'en débarrassant assez vite, en vérité?
C'est un peu, en tout cas d'un point de vue business, économique, c'est un peu la ligne qu'il essaye de tenir. Il essaye de passer pour un libéral bon teint. D'ailleurs, ligne que tient plus tellement LR non plus. Donc en effet, il essaye déjà un peu de se repositionner de cette manière. Et c'est évident que pour 2027, la géopolitique et les relations internationales vont être primordiales, comme elles l'ont été en 2022. Et en 2022, il y a eu très clairement un énorme bénéfice pour Emmanuel Macron de celle de la guerre en Ukraine. Et ça recentrait le débat. Donc oui, Jordan Bardella... D'autant plus qu'on peut penser que ça va, nous en sommes qu'au début de cet affrontement avec les États-Unis, va évidemment tenter de sortir cette position d'affidé à Donald Trump et va essayer de se recentrer. Mais bon, il y a quand même toute l'histoire de son parti
derrière lui. Il faut pas oublier.
Je pense que les gens vont pas, personne ne sera dupe, mais ça va être ça sera sans doute sa stratégie.
Non, mais c'est vrai qu'il faut pas se priver de rappeler, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui prévoyaient déjà que Donald Trump était pour le moins imprévisible, et c'est un euphémisme. Donc en fait, ils ont commis quand même l'erreur de le soutenir et de considérer qu'il était le sauveteur du monde, de l'humanité. Donc ça, c'est une erreur et c'est une stratégie extrêmement déplorable. Donc en fait, il faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'ils peuvent recommencer et que même si aujourd'hui ils essayent de sauver les meubles, les uns ou les autres, alors plus ou moins subtilement, vous avez tout à fait raison, il y a des différences de ton, mais tous ceux qui l'ont adulé doivent rendre des comptes. C'est normal.
Anne de Guigné, je voulais qu'on parle avec vous de la hausse de 200% dont Donald Trump menace la France, puisque la France s'oppose à lui sur le dossier du Groenland. Je voudrais aussi qu'on parle du déficit limité à 5%, déficit des finances publiques françaises. Vous relativisez ces deux chiffres en disant c'est pas si grave.
Ah bon. C'est non mais tous les chiffres peuvent être relativisés. Non, les 200%, bah les 200% en plus c'est sur le champagne et le vin, sachant qu'il y a déjà en plus pour toute l'Europe dont la France 15% et 20% dont nous sommes menacés. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous faites référence, David, il y a une étude d'économistes allemands du Kiel Institute qui montre en fait que les droits de douane sont essentiellement payés par les consommateurs américains. D'accord. Ce qui explique d'ailleurs que l'inflation aux États-Unis reste assez élevée. Elle a beaucoup baissé en Europe et aux États-Unis, elle bouge quasiment pas depuis un an. En partie parce que le prix des importations a beaucoup augmenté. L'inflation, là, elle est à 2,6%, je crois, en décembre. C'est pas stratosphérique, hein, mais c'est embêtant. Et ce qui explique d'ailleurs, ce qui nous éclaire sur les débats autour de la réserve fédérale. C'est pour ça que le patron actuel de la réserve fédérale, Jerome Powell, dit à Donald Trump, je peux pas baisser trop rapidement les taux, parce que l'inflation reste là. Et il lui dit, en sous-jacent, et cher ami, avec votre politique tarifaire, l'inflation risque de rebondir.
Et pour le déficit à 5%, pardon, je vous donne la parole pour terminer.
Oui, et le déficit à 5%, non, c'est amusant, j'étais étonné de voir Sébastien Lecornu nous dire, écoutez, on est sauvé, le budget, le déficit est à 5%. Mais en fait, il faut se rappeler, il faut parler en euros. En euros, le déficit est énorme, le déficit de la France. Et c'est amusant parce que j'ai lu un article récemment de Guy Abeille, qui est un haut fonctionnaire du budget, qui explique qu'en 82, en fait, c'est la France qui a inventé cet indicateur de 3% maximum du déficit. C'est l'époque où François Mitterrand, avec tous ses ministres qui dépensaient à tout va, il a demandé aux gars du budget, ah ben, inventez-moi vite un ratio pour que je puisse les calmer, avoir une raison officielle. Ils ont trouvé ça, on ne peut jamais dépasser, évidemment la France s'est empressée de le faire, mais on ne peut jamais dépasser le déficit ne doit jamais dépasser 3% du PIB. Ce qui est absurde, en économie, on ne compare pas des flux et des stocks, ça n'a aucun sens.
Et s'il avait dit 4%, dramatiserait moins aujourd'hui.
Et la France a quand même une certaine aura, elle a imposé ses ratios inventés comme ça en Europe, puis à l'international, et maintenant on en est toujours là, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité de nos finances publiques.
Goûte le mot de la fin.
Non, juste pour revenir sur l'inflation aux États-Unis, Donald Trump, hier, dans son discours à la Maison-Blanche, était absolument pathétique lorsqu'il a dit « Mais en fait, j'ai des résultats, et je ne comprends pas, parce que je dois avoir des mauvais communicants, parce que les Américains ne le comprennent pas. Économiquement, j'ai pourtant des super résultats, mais ils comprennent pas, ils voient pas que c'est formidable. En réalité, ils sont furieux, ça ne va pas, et ce sera une des raisons majeures des problèmes qu'il peut avoir à cette heure-ci. On est encore à quelques mois, évidemment, de l'élection, des mi-termes à venir.
Il a pourtant un super communicant, Donald Trump, qui s'appelle Trump Donald. Mes amis, merci. Nous allons nous séparer avec un clin d'œil à notre invité de 8h15, Gaspard Koenig, dont je vous recommande le podcast de l'interview sur l'application Radio Classique. Gaspard Koenig qui publie à quoi aux éditions de La Découverte. Nous écoutons une musique d'eau, Water Music, Handel.
Radio Classique, la radio musicale la plus podcastée de France.
Franck Ferrand raconte...
À l'époque où surgit sur la scène de l'histoire ce personnage de Jeanne, pucelle d'Orléans, on est vraiment au fond du gouffre en France.
Les histoires en musique d'Élodie Fondacci, encore une histoire. Il y a très longtemps, vivaient au Vietnam un roi et une reine qui avaient une fille d'une extraordinaire beauté. Vous trouvez ça classique ? Avec l'orchestre Appassionato.
Et ces accords semblent nous emmener loin, très loin.
Et toujours la même chose, cher Mathieu. Je crée de l'émotion, donc je me préoccupe de ce que vous ressentez.
Des livres et des notes avec Fabrice Lucchini.
Beethoven est une magnifique preuve de l'âme. Si jamais l'inadhérence de l'âme et du corps a éclaté, c'est dans Beethoven.
Tous nos podcasts sont à retrouver sur radioclassique.fr
et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Chez Action, nous avons toujours des prix extrêmement bas.
Cette semaine, une crêpière Tristar pour 12,48 €. Ou le nettoyant WC Miss Bubble 750 ml pour seulement 1,34 €. En voilà des offres qui vous rendent vraiment heureux. Pour encore plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou dans l'appli. Action Petit Prix, Grand Sourire.
Depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Delsol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons au-delà des conseils juridiques et judiciaires, une véritable stratégie d'entreprise. Delsol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Delsol Avocat, retrouvez les voix de l'économie chaque matin sur Radio Classique.
T'es où ?
Je me suis perdu. Trop d'offres ?
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
Épargne. Les taux des livrets continuent de baisser. Les rendements reculent mois après mois et la tendance semble se confirmer.
Oh là, encore une mauvaise nouvelle. Heureusement, moi, j'ai mon livret Distingo Bank. Stable, prévisible et sécurisé.
Les épargnants s'inquiètent d'une perte progressive de rendement.
C'est pourtant simple. Direction distingobank.fr. En ce moment, il y a un taux boosté et une prime de bienvenue en plus.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
L'instant, la météo, les informations avec Pierre Pilet et Franck Ferrand et les grands dossiers de l'histoire.
Être libre. Libre d'entreprendre, de donner vie à ses projets, d'investir dans ce qui compte. Être libre, c'est aussi dépenser son argent sans se justifier. Bougardier présente le PLP, le prêt libre patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 euros. Avec le PLP, votre argent vous obéit enfin. Découvrez le nouveau prêt libre patrimoine sur bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Les grands dossiers de l'histoire, c'est dans un instant. Bonjour Franck Ferrand.
Bonjour mon cher David.
Alors quel est le programme?
Le problème,
Le problème.
C'est un peu un problème. Oui, c'est un peu un problème puisque nous allons évoquer le sort de la dernière fille survivante de Louis XVI et Marie-Antoinette, la Marie-Thérèse de France, Madame.